7-9.
Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 24 novembre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le rappel vaccinal sur la table du Conseil de défense sanitaire ce matin, mais pas encore de restrictions. Alors que 6000 classes sont fermées, les tests dans les écoles pour éviter ces fermetures ont-ils fonctionné? On voit ça, Anaïs, dans un instant après les autres titres.
La fonderie automobile Sam dans l'Aveyron condamnée à la liquidation, Renault refuse de soutenir la reprise. Une justice du chiffre qui maltraite justiciables et magistrats. Prise de parole rare et massive de magistrats de toute la France. Et puis leurs échanges pendant des millénaires ont façonné les sociétés arabo-musulmanes. Passionnante exposition sur les juifs d'Orient à l'Institut du Monde Arabe.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Un film bouleversant qui m'a secoué vraiment, avec un vrai médecin qui joue dedans, un médecin extraordinaire comme on n'en rencontre qu'une fois dans sa vie. Il s'appelle Gabriel Sarah. Il est à l'affiche de son vivant d'Emmanuel Berco et ils seront tous les deux avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. À 8h20, on se retrouvera pour parler de la politique agricole commune, la PAC, avec l'économiste Philippe Chalmin et la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. Vos questions dès maintenant, le standard vous attend. 01 45 24 7000.
France Inter. Sortir la boîte à outils pour faire face au Covid qui dicte son agenda à un mois de Noël. Conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée. Pour l'instant, l'épidémie galope plus vite que les entrées en soins critiques. Simon Le Baron, le gouvernement va donc parler rappel vaccinal et passe, mais a priori pas de restrictions pour l'instant.
Le vaccin et le passe nous ont permis d'affronter la quatrième vague. Ils nous permettront d'affronter la cinquième. Voilà l'état d'esprit à l'Élysée. Confinement, couvre-feu, jauge, attestation, télétravail ne sont donc pas sur la table. À l'ordre du jour, en revanche, le rappel vaccinal. Quel calendrier? Dès le 1er décembre pour les 50 ans et plus, le président l'a déjà annoncé. Mais à quelle date ensuite? Pour les 40 ans et plus et enfin pour tous les adultes? Et à partir de quand lier cette dose de rappel au pass sanitaire? Principale question de ce conseil de défense. Autre sujet sensible, les gestes barrières. Tout le monde s'est relâché, y compris au sein de l'exécutif. Le port du masque risque fort de redevenir obligatoire en intérieur, dans tous les lieux recevant du public, y compris ceux soumis au pass. Le pass, justement, pour lequel le gouvernement veut renforcer les contrôles. Le mot d'ordre d'Emmanuel Macron est clair, on ne revient pas en arrière, ce serait catastrophique pour le pays en pleine reprise économique. Et pour lui, accessoirement, qui compte capitaliser sur ses bons résultats en avril prochain.
Jean Castex participera lui au Conseil de défense à distance, le Premier ministre toujours à l'isolement, un deuxième ministre désormais positif, la ministre de l'insertion Brigitte Klinkert, pas de symptômes mais elle aussi en quarantaine. Autre signe de l'accélération de cette cinquième vague, les classes de primaire ferment de plus en plus vite, 6000 désormais, 2000 de plus en quelques jours. Pour rappel, on ferme une classe dès qu'un cas de Covid y est détecté, c'est à lire sur franceinter.fr. Alors pour éviter cet emballage, une expérimentation avait été lancée dans une dizaine de départements, déployer des tests salivaires dans les classes pour ne laisser à la maison que les positifs. Dans le Val d'Oise, des classes ont pu rester ouvertes, mais les enseignants sont sceptiques. Rémi Brancato.
Avec ces tests salivaires directement dans les écoles du Val d'Oise, 2 jours maximum après la détection du premier cas, les résultats sont là.
140 classes n'ont pas fermé grâce à cette expérimentation.
Les enfants non contaminés ont pu rester en classe, se réjouit Véronique Houtman, la secrétaire du syndicat enseignants SNUI PPFSU, mais au prix de beaucoup d'organisations.
En 2 jours, il fallait que les enseignants donnent aux parents un document. Les parents devaient compléter la fiche en donnant leur autorisation, plus les photocopies de cartes vitales, etc. Et dans un temps contraint pour que les écoles soient réactives.
Dans les 9 autres départements, pas de résultats chiffrés pour l'instant pour ses collègues comme Cathy Blin, la secrétaire départementale des Landes.
On a un peu l'impression que ça n'a pas lieu finalement.
Car faire venir rapidement des professionnels à l'école est très compliqué.
Il y avait 5 laboratoires sur le département des Landes, mais c'est un territoire vaste, donc il faut que les gens se déplacent. Ça demande du personnel qui n'ont peut-être pas. Oui.
D'autant que les laboratoires sont occupés avec la 5e vague, note Guylaine David, porte-parole nationale du SNUI PPFSU.
Dans certains départements, on a une poussée fulgurante à des cas dans les classes et du coup, on a du mal à gérer tous ces tests dans les classes.
Le ministère de l'Éducation attend la fin de l'expérimentation vendredi pour présenter un bilan début décembre et envisager ou non d'élargir le dispositif.
Le Conseil de défense de ce matin se penchera aussi sans doute sur la situation explosive aux Antilles. Le ministre des Outre-mer s'engage à trouver d'autres types de vaccins que ceux à ARN messager pour les soignants qu'il refuse. Et alors qu'en France, on on reparle du masque en Hongrie, autrement plus touchée. Les médecins demandent des mesures d'urgence, mais le gouvernement Orbán refuse les restrictions. Il y a une semaine, on circulait sans masque dans les transports publics de Budapest. Le gouvernement vient tout juste de le réintroduire. Il faut dire que la Hongrie, frontalière de l'Autriche reconfinée, est sous la déferlante. 140 morts par jour contre 40 chez son voisin. Le reportage à Budapest de Florence Labruyère.
La pandémie fait 4 fois plus de morts en Hongrie que dans l'Autriche voisine. Mais pour le Premier ministre Viktor Orbán, pas question de revenir au confinement ou au pass sanitaire.
Les virologues le disent. Ces mesures ne protègent pas. Elles freinent seulement la pandémie. La seule chose qui marche, c'est le vaccin.
Seuls 60% des Hongrois sont vaccinés. Alors pour encourager les réticents, depuis cette semaine, plus besoin de prendre rendez-vous. Les centres de vaccination font le plein, mais la majorité vient pour une troisième dose. C'est le cas d'Ergebet, 72 ans.
Il faut des mesures plus sévères. Il faudrait obliger les gens à se faire vacciner. Sinon, ça ne finira jamais.
Pour Chandor, un grand gaillard de 53 ans, il faudrait confiner les non-vaccinés.
Il pourrait au maximum aller travailler, mais pas de restaurant, pas de spectacle, ni de club de sport. Les élections sont pour bientôt, alors le gouvernement n'ose pas dire aux gens « vous ne pouvez plus sortir ».
Si des mesures plus strictes ne sont pas prises, Noël sera une période très sombre, avertit l'Ordre des médecins hongrois. Budapest, Florence Labruyère, France Inter.
En Belgique, l'un des plus gros sites de fabrication de voitures du pays, l'usine Audi de Bruxelles, suspend sa production toute la semaine. Les cas de Covid se multiplient. Les 2000 ouvriers de l'usine sont donc renvoyés chez eux.
Il est 7h07, un nouveau coup dur pour l'ancien bassin minier de Decazeville.
Qui a déjà vu la moitié de ses habitants partir en 40 ans et l'hémorragie risque de continuer avec cette décision de Renault. Hier, le constructeur ne soutient pas l'offre de reprise de la SAM, cette petite fonderie installée à Viviez. Un an de grève et de manifestations n'y auront rien fait. Le tribunal de commerce n'attendait pourtant que le feu vert de la marque aux losanges pour valider la reprise. Hier, c'est donc la sidération et la colère qui s'est abattue sur les 350 salariés. Kathleen Comte.
La décision de Renault est une vraie surprise pour Patrick Belliti. Le projet de l'ancien patron de l'usine et seul candidat à la reprise de la SAM n'a pas été jugé assez solide par l'unique client de la fonderie. Une grande déception pour lui comme pour les salariés.
Je suis extrêmement déçu pour eux, triste même, puisque je sais les attentes qu'ils avaient dans la poursuite d'une activité dans un territoire qui est quand même assez déshérité, hein, puisque le bassin de Decazeville a connu la fermeture des mines. Moi, j'ai tenté de faire une proposition pour reprendre cette société et lui rendre les lettres de noblesse qu'elle avait connues dans les années 2000 jusqu'en 2016.
L'homme d'affaires était soutenu par l'État et la région à hauteur de 9 millions d'euros. Il ne comprend donc pas la décision de Renault, maître du jeu dans ce dossier.
Je ne pensais pas que Renault allait nous donner un refus catégorique, alors que finalement cette offre elle est appuyée par la région et par l'État, et je ne vois pas quelle garantie plus solide on pourra apporter que le soutien de la région et de l'État. Et je pense que la reprise de SAM à ce sujet était complètement emblématique des objectifs qui sont poursuivis par le gouvernement actuel.
L'État regrette la décision prise par Renault et affirme que le fonds d'accompagnement et de reconversion des salariés doté de 50 millions d'euros sera activé. De son côté, Renault s'engage à proposer aux salariés des solutions alternatives d'emploi au sein du groupe.
Kathleen Comte, vigilance orange, pluie inondation sur l'Aude, 120 à 150 mm attendus des Corbières au Narbonnais, orage prévu jusqu'à ce soir. Dans une poignée d'heures, Karim Benzema sera fixé sur son compte, jugement à 9h30 du tribunal de Versailles dans l'affaire de la sextape. 10 mois de prison avec sursis avaient été requis. La justice qui maltraite les justiciables et ceux qui œuvrent à son fonctionnement, ce cri de colère, c'est celui des magistrats eux-mêmes. Ils signent une tribune dans Le Monde, un geste rare et massif, l'Aurélie Carrive.
Ils sont 9, travaillent depuis 5 ans tout au plus, dans le Nord et le Pas-de-Calais pour partie d'entre eux, mais aussi en région parisienne ou encore à Orléans. Le suicide fin août d'une jeune consoeur en poste à Béthune les bouleverse. Émerge alors peu à peu le besoin de témoigner du malaise de toute une profession. De discussions WhatsApp en réunion par visioconférence, ils aboutissent donc à ce texte.
Nous, ce qui nous importe, c'était d'abord de nous adresser à nos collègues.
Albertine Munoz est juge d'application des peines à Bobigny.
De dire, en fait, vous n'êtes pas seul, c'est un constat généralisé. Ce ne sont pas les personnes qui sont problématiques individuellement, Il y a un problème structurel de fonctionnement de la justice.
La Tribune dénonce l'injonction d'aller toujours plus vite et de faire du chiffre. Elle décrit des magistrats qui croulent sous les dossiers, confrontés, je cite, à un dilemme intenable, jugé vite. Et mal ou jugé bien, mais dans des délais inacceptables. Partagé dans le week-end, le texte a eu un écho aussi considérable qu'inespéré. 3000 signatures recueillies en 2 jours et une liste de noms qui continue de s'allonger. Le signe, selon ses auteurs, d'un problème généralisé, structurel, auquel il est urgent de remédier.
L'Aurélie qui arrive.
Il est 7h10, le Japon emboîte le pas à Joe Biden.
Le Premier ministre confirme ce matin que son pays va bien lui aussi puiser dans ses réserves de pétrole. Après l'annonce hier de Joe Biden, 50 millions de barils de pétrole des réserves américaines mises en circulation pour faire baisser le prix du carburant. L'Inde en débloquera 5 millions, la Chine, le Royaume-Uni devraient suivre. Geste plus symbolique qu'efficace pour les analystes, 50 millions de barils américains représentent 3 jours de consommation de carburant dans le pays. Et quand on parle de démesure, ce vaisseau lancé dans quelques minutes à 7h21 à 24 000 km/h vers un astéroïde pour en modifier sa trajectoire. Souvent mise en scène au cinéma, aujourd'hui test grandeur nature, une première. Cet astéroïde ne menace pas la Terre, mais plus de 27 000 autres gravitent dans notre voisinage. Aucun risque toutefois pour les 100 prochaines années. Allez, on reste dans les étoiles, somme astronomique, plus de 11 millions d'euros. Le manuscrit d'Albert Einstein parti hier aux enchères. On vous en parlait ici en début de semaine, la science aussi chère qu'un tableau d'art. L'art, la poésie, les mathématiques, toute une culture partagée pendant 1500 ans au Moyen-Orient par les Juifs et les musulmans. C'est l'histoire de ces deux religions que raconte l'exposition Juifs d'Orient à l'Institut du Monde Arabe à Paris, Isabelle Pasquier.
De la haute antiquité au XXe siècle, l'exposition met en lumière la culture judéo-arabe, une culture, un patrimoine hébraïque en terre d'islam. Fresques de la synagogue de Doura Europos de Damas, manuscrits du grand théologien éclairé Maïmonide et bijoux du Yémen. Et on suit au fil des siècles la complexité des relations entre les deux communautés, entre échanges et conflits. Benjamin Stora, commissaire de l'exposition.
Les juifs et les musulmans ont vécu ensemble pendant 15 siècles. C'est considérable. Il y a eu effectivement une vie commune qui a produit des arts, de la culture, des traditions religieuses, une liturgie commune. De sorte que, par exemple, on a pu parler de civilisation judéo-musulmane, qui est bien réelle. Les circulations philosophiques entre Maïmonide et Averroès, dès le 12e, dès le 13e siècle.
L'exposition nous emmène jusqu'à l'exil des Juifs d'Orient avec le conflit israélo-palestinien. 1 million de Juifs au début du XXe siècle, 30 000 aujourd'hui. Mais on se rappelle donc que pendant l'Al-Andalus en péninsule ibérique, Averroès, philosophe musulman, et Maïmonide, théologien juif, ont mené une profonde réflexion sur la foi, la raison et la vérité scientifique, loin des haines et de l'obscurantisme contemporain.
Voilà, c'est à voir à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 13 mars.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, le Zoom. Comment travailler avec un Covid long ?